Je m'inspire d'un beau texte d'un prêtre que j'ai beaucoup apprécié en France, l'abbé Pierre Découvement, dont j'ai suivi une retraite à Troussure, chez le chanoine Caffarel, il y a plusieurs années. Il m'avait offert ces textes qu'il venait de publier. Le premier texte de toute cette série, c'est « Les raisons de l'incroyance actuelle ». Problème très grave, évidemment. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. On pourrait commencer par le commencement. Et pourquoi Dieu n'accorde pas tout le monde le don de la foi? Pourquoi il semble que ce soit simplement quelques personnes? Moi, on me dit que j'ai le don de la foi. Je me rends grâce à Dieu si c'est bien vrai. Mais comment se fait-il que tout le monde ne l'ait pas? Et ça me gêne très souvent, moi, ça m'embarrasse un peu. Et avant d'étudier les raisons essentielles qui empêchent nos contemporains d'être pleinement chrétiens, il faudrait peut-être répondre à une interrogation. Une interrogation qui survient inévitablement, dès qu'on réfléchit à toutes ces inégalités flagrantes dans la répartition de la foi parmi les hommes et les femmes. Et bien souvent, à l'intérieur d'une même famille, comment se fait-il que tel enfant fait très tôt l'expérience de Dieu, ce qui m'est arrivé, moi? Et j'ai même rencontré des gens qui m'ont confié avoir fait des expériences de Dieu très très tôt, comme Marie-Madeleine Davy, elle n'avait, je crois, que 3 ans. C'était une histoire d'une carpe dans une poêle que sa mère avait mis là vivante, et puis elle s'est empressée d'arracher la carpe à sa mère, chose étonnante, pour aller la rejeter dans la rivière tout près de la maison. Et ainsi, elle avait sauvé la vie de cet animal, et ainsi, elle avait eu comme une expérience de Dieu créateur. Alors donc, des enfants qui font l'expérience de Dieu en très bas âge, et puis qui participent de tout cœur à l'Eucharistie. Hein? Quelle joie on avait à 6 ans de communier, puis à 7 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans. Toujours cette joie, ce désir de recevoir Jésus. Tandis que, au besoin, un enfant comme celui-là peut avoir un frère ou une sœur qui est plutôt allergique. Alors, pourquoi? Si la foi est un bien aussi précieux que ça, est-ce que Dieu ne devrait pas faire en sorte que tout le monde, tous ses enfants, en bénéficient? Pourquoi la foi semble réservé à une toute petite élite de privilégiés? Comment se fait-il? Les chrétiens ne sont pas scandalisés parfois par cette répartition inégale de la foi, parce qu'ils sont persuadés, à cause des paroles de la Bible, que Dieu aime infiniment tout le monde, chacun de ses enfants, quoi. Et le fait d'avoir reçu au départ moins de privilèges, comme moins de santé, un environnement familial moins propice, d'être né dans un milieu moins fortuné ou même pauvre, ou d'avoir des talents intellectuels moins grands, quotient intellectuel moins élevé, d'avoir des convictions religieuses moins grandes. Mais tout ça n'est pas un signe pour ces chrétiens-là d'un amour qui serait moindre de la part de celui qui nous a créés, de Dieu. Alors, pour la plupart des chrétiens, je dirais pour tous, ceux qui croient vraiment, là, la tendresse de Dieu est sans mesure. C'est dans le psaume 119, ce beau psaume, au verset 56, très long psaume et magnifique. La parole de Dieu, elle oblige les chrétiens à combattre l'impression qui surgit spontanément dans leur esprit lorsqu'ils voient quelqu'un manquer de santé, manquer de nourriture, manquer de travail. C'est évident, ils doivent tout mettre en œuvre pour leur procurer la santé, pour leur procurer du pain, pour leur procurer du travail. C'est ainsi qu'on voit dans l'histoire de l'Église la fondation de monastères, il y a déjà 15 siècles, qui servaient de lieu de sécurité à des gens qui étaient l'objet de brigandage, ou qui étaient attaqués par les seigneurs voisins, et les moines défendaient ainsi les pauvres gens. les soignait, les nourrissait, leur donnait du travail aux besoins comme oblats. Hein? Ils devenaient des oblats dans les monastères. Il y avait des monastères qui avaient jusqu'à 2000 oblats. Et ainsi, par la suite, il y a eu des ordres religieux qui ont été fondés spécialement pour des ordres hospitaliers. Hein? Pensez simplement ici à Montréal. Bon, n'allons pas plus loin que Ville-Marie. Les sœurs hospitalières de Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu, bon, c'était fondé au début de la fondation de Montréal. Par qui? C'était fondé en France par un laïc père de famille, Jérôme Le Royer de la Dauversière, dont je vous ai parlé, qui a fondé Montréal, en fait. C'est lui le vrai fondateur de Montréal. Je vous avais expliqué ça. Hein? En somme, les derniers servis, on le sait, c'est Jésus qui nous l'a dit, bien les derniers servis ne seront pas moins heureux que leurs frères, à tout moins dans l'au-delà. Et souvent, d'ailleurs, on l'a entendu à Radio Ville-Marie l'autre jour, ce témoignage de missionnaires qui disaient que les gens très pauvres en Haïti ou ailleurs semblaient plus heureux dans leur détresse que bien des gens ici qui sont marabouts, qui rechignent et qui ont tout. Curieuse chose. Le monde à l'envers. De toute façon, les chrétiens savent aussi que Dieu a voulu un monde dans lequel règne la solidarité, afin de compenser les inégalités. Dans tous les domaines, les gens qui sont plus favorisés, ils sont appelés à mettre leur talent au service des plus démunis. Ceux qui ont plus de talent font du bénévolat peut-être davantage dans toutes sortes de domaines. Et on vous en parle tous les matins avant mon émission, de 10h à 11h. Et c'est intéressant d'écouter et de voir le dévouement de tant de gens. Et comme les autres privilèges, mais la foi, elle n'est pas un trésor à conserver. Quand on a la foi, on ne conserve pas ça jalousement au fond de son cœur, en se disant, j'ai une lumière intérieure, mais je ne la partage avec personne. Parce que c'est une lumière étrange que la lumière de la foi. Quand on la partage, elle ne diminue pas. C'est comme la lumière d'une chandelle, ou la lumière d'une lampe, vous la partagez avec quelqu'un, elle ne diminue pas, bien au contraire. Elle suscite de la joie. Mais la foi n'est pas une lumière qu'on peut partager si facilement que ça avec les... C'est pas facile. Hein? C'est pas comme bien d'autres connaissances. On peut parler d'histoire, on peut parler de... d'une exposition au Musée des Beaux-Arts, d'un spectacle, d'une partie de hockey. On parle de nos connaissances, quoi. D'un pays qu'on a visité. Mais la foi, c'est un don de Dieu absolument gratuit. Je ne peux pas le donner moi-même à ceux qui m'entourent. Mais il y a bien des facteurs qui peuvent empêcher l'accueil puis l'éclosion de ce don dans un cœur. Je reçois des lettres extrêmement bouleversantes de gens qui ont été touchés. Et je ne serais pas étonné que d'autres qui n'écrivent pas ont été peut-être heurtés par mes propos. Ou par les propos d'autres personnes ici à Radio Ville-Marie qui expliquent pourquoi, au fond, ils croient. Alors c'est en nous appuyant d'abord sur le témoignage des convertis. Des convertis. Qu'on peut trouver différentes grandes raisons de l'incroyance contemporaine, parce que eux ne croyaient pas avant de se convertir. Ils peuvent nous dire mieux que personne ce qui les empêchait, eux, d'adhérer à la foi chrétienne, et plus particulièrement à la foi catholique, puisque nous sommes en Occident, avant leur conversion. Évidemment que si nous n'interrogions que les incroyants, ce qui est évidemment indispensable d'ailleurs, il faut leur demander aussi, on se contenterait de relever la liste de toutes leurs objections. Alors, je ne me contenterai pas de soulever simplement les objections des incroyants. J'ai beaucoup d'amis qui me sont très chers et qui sont incroyants. Mon père se prétendait incroyant, n'en parlait pas tellement. Mais je doute qu'il ait eu plutôt la foi, mais qu'il avait une attitude qu'on retrouve souvent. Il s'ennuyait à l'église. Il préférait ne pas y aller. Et il préférait critiquer les prêtres que d'essayer de les aimer vraiment. C'est dommage. Mais il a appris avec l'âge. Oui, oui, à 78 ans, il est devenu profondément attaché à l'Église. Juste avant de mourir. Juste à temps. Et rappeler, en tous les cas, il faut se rappeler que chez les croyants de longue date, il y a encore des zones de croyances plus ou moins obscures, qui doivent se laisser peu à peu évangéliser. Le grand drame, la grande cause, à mon avis, de l'incroyance, c'est l'absence de contact vrai avec la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est Jésus qui le dit, d'ailleurs, quand il parle à la Samaritaine. Je vous en ai parlé le 20 mars dernier. C'était la fête de la Samaritaine, Sainte Fotine. « Ah, si tu savais le don de Dieu, dit Jésus, ah, si tu savais le don de Dieu. » Ça peut paraître paradoxal, beaucoup de baptisés, beaucoup de personnes qui vivent en dehors aussi de toute influence chrétienne, mais ne se sont jamais émerveillés devant le noyau central du message évangélique. Ils sont baptisés, ou ils ne le sont pas, mais ils fréquentent des baptisés, ils n'ont jamais été émerveillés par ce qui fait le noyau central de l'Évangile. Ils connaissent les affirmations du credo, là, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et ils récitent ça, on les voit, malgré eux, toute leur vie, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Puis, ils n'arrêtent pas. Ils n'ont jamais l'occasion, on dirait, de s'arrêter aux affirmations sublimes, si lumineuses, si belles, que ça vaut 1000 sonates de Beethoven. Mais ce sont, pour eux, tous ces énoncés, des énoncés qui présentent aucun intérêt, on dirait. Ils ne voient pas d'ailleurs ce qu'ils gagneraient à y croire vraiment. Alors comment s'étonner dans ces conditions que ces gens-là n'aient pas envie de vérifier la valeur des enseignements qu'ils ont reçus, de toutes ces propositions mystérieuses? Comment s'étonner qu'ils les abandonnent à la première occasion quand ils ont 16, 17 ou 30 ans? On n'y revoit plus à l'Église. Ils savent que Dieu interdit aux chrétiens de faire un certain nombre de choses. Ils savent que Dieu leur promet la vie éternelle, s'ils lui obéissent. Mais ils ne connaissent de l'Évangile que les interdits, puis cette promesse. Est-ce qu'on peut dire alors qu'ils connaissent l'Évangile quand ils n'en ont retenu que cette espèce de vague idée d'un Dieu gendarme, comme disent les gens, de façon un peu vulgaire, ce Dieu qui nous watch. Mais quel émerveillement quand il découvre tout à coup le Dieu de l'Évangile, quand il découvre un Père qui aime passionnément chacun de ses enfants, un Père qui ne cesse jamais de les créer, en fait, et de les admirer. Oui, Dieu nous admire. Étrange, de dire. Un Dieu qui frappe à la porte de notre cœur pour y habiter, qui continue à nous aimer quand nous faisons la sourde oreille, et qui a envoyé son Fils sur terre pour nous confier à chacun d'entre nous ses secrets d'amour, puis les faire vivre nos cœurs, les faire vivre de sa vie. Ah, ils sont légion ceux qui refusent Dieu, c'est sûr. Alors qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas qui est Dieu. Puis ils disent qu'ils n'y croient pas, ou ils le refusent, ou ils disent agnostiques. Ils ne le connaissent pas. Ils ont peut-être communié des dizaines de fois dans leur vie sans même s'étonner de tenir dans le creux de la main le plus grand amoureux du monde. C'est pas des farces. Après quoi, là, ils vont dire que l'objet de la foi chrétienne est abstrait. Mystérieux. C'est vrai que c'est peut-être abstrait, une hostie. Mais quand on a la foi, ça n'est plus abstrait. La prochaine fois, vous communierez, prenez l'hostie dans votre main. Approchez-la de votre bouche, de vos lèvres. Embrassez-la. Donnez-lui un baiser. Pas le baiser de Judas, évidemment. Oh, nous sommes tous des pécheurs. Nous trahissons tous Jésus. Mais que ce soit un baiser qui réponde à son amour, avant de vous unir à lui. Qu'est-ce qui manque alors à ces incroyants, à ces malcroyants? Il manque la rencontre de chrétiens heureux de vivre leur foi. Des chrétiens qui seraient capables de l'exprimer là, très simplement. Alors, beaucoup de convertis ont reconnu que cette rencontre avait été pour eux décisive quand ils avaient rencontré des vrais chrétiens. Elle peut prendre des formes très variées. Vous vous souvenez, le 31 juillet, je vous ai parlé de Saint Ignace de Loyola, hein, ce jésuite, le fondateur des jésuites, quoi, hein, cet espagnol d'un courage fantastique, hein, qui s'est converti sur son lit d'hôpital parce qu'il avait été blessé à une jambe dans la guerre avant de fonder les jésuites. Hein. Puis, il avait lu La Légende Dorée, c'est quoi? C'est un recueil de vie de saints. En lisant les vie de saints, il a décidé de devenir un saint, hein. Comme cette petite Emmanuel qui me disait, oh, monsieur Beaugrand-Champagne, j'aime assez vos émissions. J'ai 7 ans. Mais je l'ai dit à ma maman la semaine dernière, je veux devenir une sainte. Mais oui, à 7 ans. Pensons aussi à un ancien professeur de droit international à Paris, qui en se convertissant à la foi chrétienne, a admis que c'était après avoir lu les documents pontificaux de Pie XII sur la paix. Il y a des gens qui disent que les documents pontificaux, ça les intéresse pas. Même des prêtres, même des religieux qui disent ça, même à la télévision. Il y en a qui se convertissent en lisant ça, parce que c'est magnifique. Oui, c'est magnifique de les lire encore. Faut-il avoir une certaine formation, peut-être, mais encore faut-il s'astreindre et vraiment comprendre. Hein? Et pensons à tous ceux qui sont acheminés vers la foi chrétienne après avoir été des témoins émerveillés de quoi? D'une liturgie fervente. Et combien de gens nous disent qu'ils sont allés dans une église orthodoxe et qu'ils ont vu une liturgie merveilleuse, grandiose, où la ferveur les éblouissait. Et ils ont senti que Dieu était là, présent. Le sacré, mais aussi le sacré qui révèle la présence immédiate de Dieu, sa grandeur, mais aussi sa bonté. Mais aussi dans nos liturgies plus simples, quand les prêtres à l'autel sont fervents, quand les lecteurs ou les lectrices sont fervents, quand le monde est fervent, quand la foule devient fervente, il y a des témoins qui deviennent émerveillés devant ça. Et celui qui révèle ainsi le Seigneur à l'un de ses frères, à une de ses sœurs, exerce à leur égard une véritable paternité spirituelle. C'est saint Paul qui n'hésite pas à appeler les chrétiens de Corinthe ses enfants bien-aimés. Il le dit, mes enfants bien-aimés. Et ces réflexions nous amènent à une conclusion pratique. L'importance du témoignage dans l'évangélisation, c'est très important. La nécessité d'une présentation authentique de l'Évangile. Puis l'urgence de la mission. Si au Synode de Montréal, on comprend ça, là, l'importance du témoignage dans l'évangélisation. Si le synode arrive à des conclusions comme ça, ils auront fait un pas en avant important. La nécessité d'une présentation authentique de l'Évangile. On n'ait pas peur de dire la vérité, à tout point de vue, y compris sur le problème de l'avortement, en s'appuyant sur les données de la science, hein, sur les données de la psychologie aussi. Tout est là, il y a des encyclopédies, des dictionnaires de 3 volumes sur ces questions-là, écrits par des Américains admirables, puis aussi l'urgence de la mission. Devenir des missionnaires, quoi. Et comme l'écrit saint Paul aux Romains, comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Et comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamé? Beaucoup de baptisés avouent n'avoir jamais rencontré Dieu. Je pense à Maurice Leclerc, président des chemins de fer nationaux, là, qui nous disait à un déjeuner de la prière, cet homme remarquablement cultivé, admirable, qui s'est occupé d'ailleurs de la campagne de levée de fonds pour l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, qui s'est, pour ainsi dire, converti à l'intérieur de sa foi, puisqu'il allait à la messe le dimanche, mais qui s'était rendu compte qu'il n'avait jamais prié et qu'il n'avait jamais saisi que Dieu l'écoutait. Il nous avait révélé ça, c'était bouleversant. Or, beaucoup de baptisés avouent n'avoir jamais rencontré Dieu, vous ai-je dit. Dieu est toujours resté pour eux quelqu'un dont on parle, le Créateur du ciel et de la terre. Mais jamais il n'est devenu pour eux celui à qui on peut parler et on parle. En somme, ils n'ont jamais prié. Ça peut paraître absolument invraisemblable, mais c'est comme ça. Hein? Quel émerveillement quand ils découvrent tout à coup que le christianisme n'est pas d'abord une certaine façon de vivre au milieu des autres, une certaine morale, mais une présence. C'est ça le christianisme, c'est une présence. Et certes, pour être chrétien, il ne suffit pas d'avoir expérimenté un jour dans sa vie l'existence d'un Dieu personnel. Pas ça. Sinon, bien, tous les Juifs et tous les musulmans partageraient notre foi, seraient chrétiens. Mais c'est pas ça être chrétien. D'autre part, bien des chrétiens qui ont prié de tout leur cœur durant leur jeunesse se demandent plus tard, ils n'ont pas été victimes d'une espèce d'illusion. Et puis, si la réponse de Dieu qu'ils croyaient percevoir dans leur prière, c'était pas le simple reflet de leur désir, c'est vrai, ça. Il est très important d'apprendre aux chrétiens à rejoindre Dieu tout au fond de leur cœur, oui, tout au fond de leur cœur. Car si les chrétiens n'apprennent pas à le faire en Église, oui, en Église, ils risquent de se précipiter plus tard, comme on le voit très souvent, dans une sorte de secte. Bon, tu sais, quand je vois les sectes où on aboutit même dans la mort, hein, les membres leur paraîtront plus religieux dans ces sectes-là. Plus intérieur que les chrétiens, c'est ce que me disait quelqu'un que je connais assez bien, dénommé Gaston, je garde le nom de famille, qui est dans une secte comme ça, d'une prophétesse étrange. C'est dire que je partage pas du tout l'avis de ceux qui opposent de façon trop radicale foi et religion. Bon, c'est vrai, il suffit pas d'avoir l'esprit religieux, d'avoir du goût pour la prière, pour adhérer au Christ ressuscité. Mais il est dangereux de ne pas développer le sens du sacré chez un enfant, sous prétexte que ce n'est pas encore la foi. L'homme est par nature un animal religieux, j'en suis convaincu, autant qu'un animal social, comme on dit souvent. Puis une éducation humaine intégrale ne doit pas oublier cette dimension religieuse de l'existence. C'est pour ça que nos écoles religieuses, à mon sens, sont très importantes. La grande majorité de notre peuple désire des écoles catholiques, mais est-ce possible encore aujourd'hui? Combien d'enfants sont sur ce point sous-développés sur le plan de l'enseignement religieux? Est-ce que les mères célibataires, les couples en difficulté vont pouvoir enseigner la religion à leurs enfants? Comment faire s'il n'y a plus d'enseignement religieux dans nos écoles? C'est catastrophique. Ils ne seront plus rien. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la prière des chrétiens doit être sans cesse évangélisée. Sinon, on ne veut pas que cette prière reste au stade de la rêverie, d'une espèce de promeneur solitaire, ou d'une espèce de monologue d'adolescent qui confie à Dieu ses états d'âme. Et pour être authentiquement chrétienne, la prière du chrétien doit devenir un dialogue. Elle doit accorder, à mon sens, une part importante à l'écoute des déclarations d'amour que Dieu nous adresse dans la Bible. Oui, des grandes déclarations d'amour. Pour le chrétien, en effet, tous les messages du Seigneur sont déjà là, inscrits, une fois pour toutes, là, dans la Bible. C'est dans la Bible où l'Esprit Saint n'est pas chargé de nous dire quelque chose de plus, mais de faire résonner dans le tréfond de nos cœurs une parole de la Bible que nos yeux sont en train de lire et que nos oreilles ont déjà entendu. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Hein? On a déjà entendu des paroles de la Bible. Puis tout à coup, on prend la Bible chez soi avec une lumière tout près de nous. On fait le silence. Oui, arrêtez d'écouter Radio Imaré pendant une demi-heure. Oui, on m'en voudra pas. Pas pendant rencontre spirituelle. Puis vous écoutez tout à coup ce que l'Esprit Saint vous dit. Ou bien, si vous écoutez ça pendant la belle musique, mettez la musique en sourdine. L'Esprit Saint, c'est comme un répétiteur qui fait mieux comprendre à la maison, là, la leçon que vous avez appris à l'église, à l'école. Quand le prof à l'école, c'est le Christ lui-même, ben, le désir du répétiteur, de l'Esprit Saint à la maison, là, est tout simple. Hein? Il suffit de laisser résonner au fond de notre cœur la voix de Jésus, notre Maître, puis notre Seigneur. C'est pas compliqué. Il y a des enfants qui expriment souvent de façon admirable l'expérience très vive là, qu'ils ont déjà de la tendresse puis de la proximité de Dieu. C'est une belle expérience que nous rapporte Daniel Ange, que j'ai déjà reçu chez moi et que j'aime bien. Hein? Ah, Daniel Ange. Je l'avais interviewé à Rencontre à la télévision de Radio-Canada. Nous l'avions révélé, Marcel Brisebois et moi. à la population. Beaucoup de gens ont appris à l'aimer. Et dans ce livre qu'il a publié en 1983, Ton enfant, il crie la vérité. Il raconte l'histoire de Benoît. Ses parents disent à Benoît, qui est un enfant mongolien, « Que désires-tu comme cadeau pour ta première communion ?»« Que désires-tu comme cadeau pour ta première communion ?» Alors stupéfait, cet enfant, je vous le rappelle, qui est mongolien, qui répond, « Mais comment ? Je veux Jésus. Je veux Jésus. » Et oui, c'est tout ce qu'il voulait. Un enfant qui veut Jésus. Il y a bien des motifs qui amènent les gens à ne plus croire. Il y a des objections d'ordre philosophique. L'athéisme, de toute façon, ça a été plus ou moins en vogue à des moments où on n'y pense pas, même au XIIIe siècle. Et on le retrouve de même avant Jésus-Christ. Parce que l'athéisme de tous les temps met en valeur la présence terrible du mal dans le monde. Et comment croire quand il y a le mal dans le monde? Ça semble tellement incompatible avec l'existence d'un Dieu de bonté qu'on pense simplement à la mort d'un enfant. C'est bien plus terrible que toute la bibliothèque de l'athéisme. Pour certains, c'est révoltant. Mais pourtant, ce n'est pas Dieu qui tue les enfants. Il y a le positivisme aussi qui prétend que l'homme est incapable d'affirmer avec certitude une vérité. Une vérité qui n'est pas d'ordre expérimental. Une vérité qui n'est pas atteinte par une démarche proprement scientifique. C'est Auguste Comte qui disait, le fameux positiviste, là, « Je ne crois qu'à ce que je vois. » Il pensait d'ailleurs, Auguste Comte, qu'avec l'avènement de la science, on était entré dans une nouvelle ère de l'humanité, l'ère positive, et que cette ère allait éliminer définitivement toutes les périodes précédentes où on se posait tellement de questions sur le plan théologique et métaphysique. Pour lui, là, c'était le matérialisme, c'est un point, c'est tout. Mais ça n'est pas comme ça, c'est évident. Puis il y a aussi le rationalisme du 18e siècle, hein? Ce rationalisme qui conteste la possibilité d'une, ce qu'on appelle une manifestation privilégiée de Dieu à une période déterminée de l'histoire, ce qu'on appelle, nous, les chrétiens, la révélation. Cette irruption là, de l'éternel, le Dieu éternel, dans le temps. Cette irruption, ce serait tout à fait irrationnel. Hein? Cette objection, d'ailleurs, prend une actualité nouvelle, hein, depuis que nous connaissons mieux l'histoire, puis les dimensions du cosmos. Hein? Je vous en ai déjà souvent parlé. Hein? Est-ce que c'est pas impensable que le Fils de Dieu, Jésus, là, soit venu sur notre petite planète, notre petite Terre, qui est noyé là, dans cette galaxie immense, perdu au milieu de millions d'autres galaxies, pour ne pas dire des milliards de galaxies. Rien qu'une galaxie, ça nous écrase. Et puis on affirme, nous, que sous Ponce Pilate, il y a 2000 ans, alors qu'il y avait déjà des hommes sur la Terre depuis peut-être 2 ou 3 millions d'années, on dit même 5 millions d'années maintenant. Alors comment affirmer les choses que nous affirmons devant des enfants ou des jeunes gens qui étudient ces choses-là? Ils tournent le dos, hein? Ils s'en vont chercher un Coke ou un Pepsi, ils ricanent, ils s'en vont au cinéma, ils écoutent de la musique. Ils nous prennent pour des vieux fous. À moins que nous soyons des témoins authentiques, hein? C'est ça le problème. Puis il y a les philosophes du siècle des Lumières, hein? Qui conteste très spécialement la possibilité de miracle, et on le dit encore. Que d'exégètes protestants nous disent qu'il n'y a pas de miracle dans la Bible, c'est faux. Nous savons, nous, catholiques, qu'il y en a des miracles, et je vous en ai raconté, des miracles à Lourdes. Oh, ils vont dire qu'un jour on va expliquer tout ça. Allons donc. Faut quand même être lucide. Pensez à cette Italienne qui n'a pas de pupille et qui voit. Bon, il y a une limite au bon sens. Elle voit. On va expliquer ça dans 3000 ans. Voyons. Les interventions du Créateur au cœur de sa création pour venir guérir un organe malade serait, selon ces gens-là, tout à fait indigne de lui. Il ne s'abaisserait pas à ce point-là. Mais voyons. Ça voudrait dire, d'ailleurs, que Dieu, d'après eux, reconnaîtrait que sa création est mal faite, qu'elle a besoin de retouches. Et Dieu commettrait une fameuse injustice, une de plus, n'est-ce pas, puisqu'il guérit une personne qui ne guérit pas l'autre. Mais nous savons l'histoire de ce petit garçon qui part d'Angleterre, je l'ai vu dans un film de Malcolm Muggeridge, et qui se rend à Lourdes en train, et qui est impotent, et qui avait regardé pendant des mois par sa fenêtre ses petits copains qui jouaient au ballon, au soccer, dans le parc devant sa fenêtre, de la maison de ses parents. Puis il se rend à Lourdes, il revient, puis il n'est pas guéri. Puis Malcolm Muggeridge, grand journaliste anglais-britannique, lui demande, « Et alors, comment te sens-tu? » Oh, il me dit, « Je me sens beaucoup mieux, beaucoup mieux. » Il dit, « J'ai peut-être pas été guéri, mais d'avoir vu tous les autres comme ça, prier avec moi et avoir confiance en Dieu, ça change tout. Et maintenant, je regarde mes petits copains qui jouent, je suis heureux pour eux. Et je prie pour eux. Et je me réjouis pour eux. » Il était sorti de lui. C'est ça la guérison la plus profonde. Puis les philosophes athées du 19e siècle, Paul Ricoeur, que j'avais interviewé aussi à Rencontre, à la télévision, a appelé ici justement les maîtres du soupçon. Qui sont ces trois maîtres du soupçon, hein? Les philosophes athées du 19e siècle, vous les connaissez, Marx, Freud, Nietzsche, qui prétendent que l'attitude religieuse a toujours été dans l'histoire humaine le reflet de la misère, quoi, de la misère matérielle, de la misère psychologique. En somme, que l'attitude religieuse est un opium que les hommes ont inventé pour oublier leur infortune. Que ce serait une névrose collective d'une humanité qui est infantile. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de réfuter les religions, de prouver, par exemple, l'inexistence de Dieu. Il suffit de montrer quels sont des phénomènes dérivés, disent-ils, des attitudes de malades, puis d'opprimés. C'est ce qu'ils pensent, ces gens-là. Mais pourtant. Puis il y en a d'autres qui disent que la science va élucider un jour ce que les religions attribuent aujourd'hui à l'intervention de Dieu, là, l'origine du monde. La science va expliquer, imaginez, l'origine du monde. La science va expliquer l'origine de l'homme, fait de la même matière que le sol et qui pense, et qui compose de la musique, et qui compose des poèmes, et qui aime, et qui se marie, et qui s'engendre. Ben oui, nous sommes faits de la même matière que le sol, et tout ça s'est fait tout seul, sans Dieu, sans programmateur, sans personne. Ben voyons. Je ne comprends pas les gens qui disent des choses comme ça. C'est trop facile d'affirmer des choses absurdes. Ils vont dire que nous, les croyants, nous en affirmons d'absurdes, mais il me semble que les leurs sont encore plus absurdes, malgré tout le respect que je dois à tous mes amis athées. Puis il y a les récits évangéliques qui ne seraient pas historiques. On l'a vu dans des magazines ces jours-ci, américains. Ils disent aussi que les vrais chrétiens sont trop peu nombreux, que les chrétiens sont trop divisés entre eux, que Dieu devrait faire en sorte qu'il y ait plus de prêtres, plus de miracles, et puis moins de sec. Mais voyons, c'est comme ça. Hein? C'est à nous de changer les choses. Ils disent aussi que le christianisme, ce serait un humanisme. La foi chrétienne, d'autre part, ne serait pas un humanisme. Parce qu'elle ne rend pas l'homme plus heureux. Elle l'asservit. C'est vrai qu'on voit souvent des catholiques qui sont comme asservis, hein? Devenus craintifs, malades psychologiquement, dans une foi où le Dieu qui les aime est comme absent, ce n'est qu'un Dieu qui les surveille. Alors ils sont aliénés. D'autres disent que la morale catholique est impossible à pratiquer. Ça se dit très souvent aujourd'hui, on le voit même dans le journal. Qu'elle est trop dure, qu'elle ne tient pas compte des progrès d'humanité. Que la morale catholique condamne le divorce, condamne l'avortement, condamne l'euthanasie, condamne la contraception. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Vous vous engagez vis-à-vis une femme, monsieur. Si un jour vous voulez la rejeter à la rue, arrangez-vous donc avec elle. C'est pas plus grave que ça. Prenez-en une deuxième, une troisième, une quatrième. Mais oui, allez, allez. Quant à l'avortement, bien bon. Vous avez un enfant dans le sein de votre femme? Tuez-le. C'est pas grave, allez, allez. Vos parents sont trop vieux. Ils souffrent beaucoup. Appelez le prêtre. Un médecin viendra aussi. Il donnera une injection. La contraception? Mais oui. Et on sait que ça fonctionne pas toujours. Et on sait que les condoms ne fonctionnent pas toujours. Puis on sait que ça rend la femme terriblement objet. Objet. C'est German Greer, la papesse du mouvement féministe, qui a viré capot au début des années 80 et qui a compris que tout ça, contraception, avortement, tout ce qu'elle préconisait avec tant de feu et de flamme aux États-Unis, en Angleterre et partout, ben elle disait à la télévision américaine qu'elle s'était trompée, que la femme était détruite par tout ça. On objecte toutes sortes d'autres choses, que la prière, c'est du temps perdu. Puis il y a aussi, évidemment, l'encombrement du moi, l'orgueil, l'égoïsme, la sensualité. Il y a l'activisme aussi, hein, qui gêne beaucoup. Tout ça, ça fait énormément de tort à la foi. Pour rencontrer Dieu en vérité, il faut avoir l'âme désencombrée. Il ne faut pas être encombré de son moi. N'oublions pas la parabole de la semence. Ça se vérifie encore au XXe siècle, ça, cette parabole de la semence. Dieu ne peut faire entendre sa parole à un cœur que si celui-ci n'est pas dur comme pierre. Mettez de la semence sur de la pierre, ben ça pousse pas beaucoup. Hein. Ça pousse pas du tout. Mais ça peut pousser des fois par une petite craque, là, comme on dit, une petite fente. Mais c'est bien rare. Faut pas avoir un cœur de pierre. Faut pas avoir un cœur tout envahi par des ronces non plus. Bien des convertis ont avoué n'avoir trouvé Dieu qu'après avoir reçu la grâce d'être débarrassés de leur chaîne. Alors de quoi faut-il se désencombrer? Mais il faut se désencombrer son orgueil. Il y a ce beau psaume 95, hein, qui dit « Entrez ». Je m'adresse à tous les incroyants qui m'écoutent, s'il y en a, là, j'espère qu'il y en a. Psaume 95, entrez, entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Et si vous n'aimez pas le mot troupeau, ben enlevez le mot troupeau, dites la gang guidée par sa main, le groupe. Le peuple, l'humanité guidée par sa main. Accueillir Dieu dans notre vie, c'est l'accueillir, lui, comme la source perpétuelle de ce que nous sommes. Il est la source perpétuelle de ce que nous sommes, hein, et de ce que nous avons même. Puis il faut être prêt à lui dire sans cesse merci. Nous n'existerions pas s'il ne nous tenait pas dans l'existence. Hein. Je vous en expliquais un peu le motif scientifique, peut-être. Peut-être que je me trompe. Mais chaque atome est composé, vous le savez, d'un noyau de neutrons, de protons, qui tourne autour du noyau à une vitesse constante. Et si cette vitesse diminuait, tout s'effondrerait. D'où vient cette énergie qui, depuis environ 15 milliards d'années, fait que tous ces atomes se maintiennent? Comment se fait-il? Celui qui a rencontré Dieu reconnaît joyeusement d'ailleurs sa condition de créature, sa dépendance, oui, sa dépendance qui est radicale vis-à-vis du Créateur. Mais celui qui ne l'a pas encore découvert, là, il ressent ça comme une insupportable annihilation. C'est Paul Valéry que j'aime beaucoup quand même, parce qu'il a dit de très belles choses, Paul Valéry, que j'aimais beaucoup lire quand j'avais 16-17 ans. Il a pris beaucoup de notes que j'ai dans mes dossiers encore. Il disait « Je suis excédé d'être une créature. » Il était révolté contre ça. Il y a Marx aussi qui disait « Un homme n'est son propre maître que s'il se doit à lui-même son existence. » Mais comment pouvons-nous nous devoir à nous-mêmes notre existence?
Il écrit ça en 1844, Karl Marx. Et d'autre part, pour rencontrer Dieu tel qu'il est, il faut se présenter à lui tel qu'on est, c'est-à-dire pauvre pécheur, se reconnaître pécheur. La prière hésychaste est très belle. Prends pitié de moi, pauvre pécheur. Prends pitié de moi, pauvre pécheur. Ici encore, quand on se reconnaît pécheur, celui qui a découvert la miséricorde de Dieu, la miséricorde du Père, ben, il sent absolument pas humilié d'avoir sans cesse besoin de ce pardon divin. Mais l'incroyant, lui, a l'impression que sa fierté va lui interdire toujours de reconnaître ses torts puis s'agenouiller devant Dieu comme un pécheur. Il faut aussi se désencombrer de sa sensualité. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Même si la béatitude évangélique ne concerne pas directement la pureté au sens courant du mot, là, il est vrai que celui qui ne fait rien pour résister à toute l'ambiance érotique dans laquelle notre monde baigne, et celui-là il risque fort de ne pas découvrir Dieu, il va être noyé. Alors on nous montre à la télévision comment on a des condoms, puis on entend des intervieweurs très connus demander aux chanteurs combien de fois ils sont infidèles par semaine à leur femme, etc. C'est-à-dire à leur conjointe, comme on dit, parce qu'il n'y a plus d'épouse, il n'y a plus de mari. C'est Pascal, Blaise Pascal, qui invitait la liberté à parier pour l'existence de Dieu. C'était pour l'amener à changer de conduite. En somme, l'auteur des pensées que vous avez lues, j'espère. Mais cet auteur espère bien qu'en quittant ses passions, ben le libertin va finir par avoir la foi. Il dit, travaillez donc à vous convaincre, non pas par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. Vous voulez aller à la foi, et vous n'en savez pas le chemin. Vous voulez vous guérir de l'infidélité, et vous en demandez les remèdes. Ben, apprenez-les de ceux qui ont été liés comme vous, et qui parient maintenant tous leurs biens. Ils savent ce chemin que vous voudriez suivre, et ils sont guéris d'un mal dont vous voulez guérir. Alors suivez la manière par où ils ont commencé. Pas bête, Blaise Pascal, ça. Agissez comme si vous aviez déjà la foi, continue Blaise Pascal. Prenez de l'eau bénite et quittez vos plaisirs. Cela rejoint ce qu'il écrit ailleurs, d'ailleurs. « J'aurais bientôt quitté ces plaisirs, dit-il, si j'avais la foi. » Alors Pascal leur dit, « Moi, je vous dis, vous auriez bientôt la foi si vous aviez quitté les plaisirs. » Alors, dans le même sens, Ernest Psychary, dont je vous ai parlé aussi, Ernest Psychary, on a fait une belle émission sur lui, hein, il confiait, après son aventure dans le désert d'Afrique, « Rien ne nous avance dans la vie spirituelle comme de vivre d'un peu d'eau salée et de riz. » Et chacun sait, par ailleurs, quand ne pas vivre sa foi, on la perd. Hein, c'est vrai, ça. Quand on ne vit pas sa foi, on la perd. À force, il disait, à force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit. Puis il faut se désencombrer de son égoïsme, et on a souvent remarqué qu'en accueillant vraiment les autres dans son cœur puis dans sa vie, l'être humain se disposait à accueillir le tout autre. Oh, je n'aime pas parler de moi, il y a des gens qui me le reprochent, dans tous les cas. J'ai pris dans ma vie, pendant plus de 20 ans, un itinérant. J'en ai fait mon fils, ce n'était plus un itinérant, c'était mon fils. C'était quelqu'un qui avait un domicile, que j'envoyais à l'école, finir sa deuxième année, puis sa troisième, puis finalement, avant de mourir à 40 ans, il a fini sa cinquième année. Ça lui a pris beaucoup de temps. Mais vraiment, quand on accepte quelqu'un dans notre cœur comme ça, puis dans notre vie, on accueille aussi le tout autre qui est Dieu. Ce n'est qu'après avoir pratiqué l'hospitalité vis-à-vis de l'inconnu rencontré sur la route que les disciples d'Emmaüs ont reconnu en lui le Christ ressuscité, hein? Il y en a été question ce matin à la radio Ville-Marie. Un amour authentique du prochain. Quelle que soit la forme d'engagement que cet amour peut susciter, mais ça ne peut pas ne pas déboucher un jour ou l'autre là, sur la rencontre de Dieu, qui est la source de tout amour. L'homme tout dévoué à ses frères va s'apercevoir un jour, à tout le moins au dernier jour, que c'était le Seigneur qu'il servait en nourrissant les affamés et en visitant les prisonniers. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus, hein? C'est à moi que vous l'avez fait. De toute façon, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est dans la première épître de Saint Jean. Car celui qui, au contraire, se renferme égoïstement sur lui-même aura plus de mal à découvrir Dieu. Il faut aussi se désencombrer son activisme. C'est Isaïe qui dit « Ils se prosternent devant l'œuvre de leurs mains. » C'est donc vrai. Hein? Ah, les beaux-arts. Ah, les sculptures, les peintures. Ah, les œuvres d'art, les vernissages, les collections. Bon, j'en sais, j'ai une très belle collection, dit-on. Mais j'en avais, j'ai pas mal vendu. Mais c'est, on se laisse prendre. Mais j'ai jamais réussi à me laisser prendre au point de régner Dieu, jamais. Alors, pour rencontrer Dieu, il faut aussi accepter de prendre du temps. Celui qui est trop attaché à ses affaires, c'est-à-dire à toutes sortes de choses qu'il pense devoir faire, celui qui ne vit que pour son travail, risque fort de jamais découvrir Dieu. Toutes les affaires urgentes là, qu'il doit régler, là, puis, oh, c'est, ils ont des téléphones ici, des téléphones là, puis ils ressemblent aux idolâtres que dénonçait le prophète d'Israël, ils se prosternent devant l'œuvre de leurs mains. Ben oui. On peut pas rencontrer Dieu en vérité si l'on ne sait pas lui donner une sérieuse part de son agenda. Rien d'étonnant. Si la découverte ou la redécouverte de Dieu se fait plus aisément en période de vacances, ça aide des vacances. Puis rien d'étonnant non plus si la participation à une retraite spirituelle, oui, c'est bien important d'aller en retraite spirituelle. Ça nous fait souvent accomplir dans le domaine de la foi des progrès que nous n'avions pas réalisés pendant des années. De recherche qui était purement intellectuelle parce qu'on était trop pris par toutes sortes d'obligations. Puis il faut se désencombrer de sa peur, oui, de sa peur. Hein? C'est dans Saint Jean, au chapitre 12, « Parmi les notables, un bon nombre de Juifs crurent en lui, dit l'Évangile. Mais à cause des pharisiens, ils ne se déclaraient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. Oui, ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Car ils préfèrent la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Combien de gens, des animateurs à la télévision, et tout à coup la foi vous envahirait. Oh, faites mieux de vous taire, hein? Vous faites mieux de vous taire. Parce que si vous le dites, vous êtes foutu, fini. La même chose si vous êtes journaliste. Taisez-vous. N'en parlez pas. Faites attention. La peur du qu'en dira-t-on, la crainte d'être ridiculisé à cause de ses convictions religieuses, c'est un autre obstacle à la naissance ou à l'enracinement de la foi dans un cœur. Elle est aussi à l'origine de bien des abandons qu'on songe au reniement de Pierre. Oui, quand c'était dans le palais de Caïphe. Hein. Puis dans un contexte difficile comme notre société ici, où les chrétiens sont devenus minoritaires, sommes-nous vraiment minoritaires, je ne le crois pas, mais il faut une réelle victoire sur le respect humain. Pour persévérer dans la foi de son enfance, ou pour comprendre une démarche catéchuménale. Oui. Entreprendre une démarche catéchuménale, c'est pas facile. Pour aller se faire baptiser, si on trouve la foi. Alors, si personne ne mérite à proprement parler la grâce de la foi, il reste que tout homme, toute femme peut se préparer à la réception de ce don. Il y a des dangers à réduire l'éducation chrétienne à l'acquisition par l'enfant de bonnes habitudes conformes à l'idéal évangélique. On sait même avec quelle véhémence Jésus dénonce le pharisaïsme de ceux qui se croient arrivés. On y empêche que l'évangile insiste sur la nécessité de faire la vérité pour venir à la lumière. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Hein, c'est dans Saint Jean, ça. Ben oui, ils ont préféré les ténèbres à la lumière, du fait que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais si les hommes n'ont pas accepté la lumière du Fils unique venu dans le monde, s'ils ont préféré les ténèbres à la lumière, c'est du fait que leurs œuvres sont mauvaises. Ben oui, l'Évangile nous dit clairement que les hommes peuvent être responsables de leur incroyance. Et c'est ça qui est grave. Ce qui ne nous autorise évidemment pas à porter un jugement négatif sur nos frères qui sont incroyants, sur nos sœurs qui sont incroyantes. Puisque nous savons tous, nous qui croyons, que la foi, c'est toujours un don de Dieu absolument gratuit. Heureux es-tu, Simon, dit Jésus, quand il parle à Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont permis de dire que j'étais le Messie, mais mon Père du ciel. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 16. et en examinant les grandes causes de l'incroyance contemporaine. J'essaie de repérer par le fait même tout ce qui est nécessaire à la germination, à l'épanouissement de la foi dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes et de tous les enfants. C'est quoi? C'est la rencontre de chrétiens heureux. Soyez heureux, soyez heureux. C'est aussi l'habitude de la prière, d'une rencontre authentique de Dieu où l'on prend le temps de l'écouter puis de lui parler. Troisièmement, la possibilité de répondre aux questions qu'on se pose. Et quatrièmement, l'exercice. Oui, l'exercice de la vie chrétienne vécue selon toutes les exigences. Et c'est ainsi que le monde va changer et que notre monde va changer. C'est comme ça.